Eh bien, mes chers amis, en ce matin du 11 novembre, jour où l'on rappelle l'armistice de la guerre de 14 à 18, j'aime à vous saluer au nom du Seigneur, le Seigneur de la paix. Hier soir, du sein de la gloire où Dieu a élevé son Fils après son œuvre parfaite, le Seigneur lui-même nous a accueillis les uns et les autres par une promesse et un avertissement. Je dis cela pour ceux qui n'étaient pas là hier. Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Quel accueil! La nouvelle du sein de la gloire que Jésus s'apprête à accomplir sa promesse qu'il avait donnée à ses disciples avant de les quitter. Je reviendrai. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je reviendrai. Et il leur avait dit ce qu'il allait faire auprès du Père. Leur préparer une place, nous préparer une place. Car sa volonté, il l'a déclarée à son Père dans sa prière à Gethsémané. Père, je veux que là où moi je suis, ceux que tu m'as donnés, ils soient aussi avec moi. Donc nous savons quelle est la pensée du Seigneur pour nous tous, et nous savons où il nous veut, et que notre place, c'est lui-même qui l'a préparée. Et alors, ce matin, dans la nuit, j'avais demandé au Seigneur, quel est le mot d'ordre que tu veux que je mette pour ce matin du 11 novembre? Et à ma surprise, il m'a répété une parole toute semblable. La première, hier soir, je viens bientôt, se trouve au commencement de l'Apocalypse, au chapitre 3e, verset 11e, la parole que Jésus dit à l'église de Philadelphie. Et celle qu'il m'a donnée pour ce matin se trouve dans le chapitre 22 de l'Apocalypse. Donc il y en a une au commencement et une à la fin. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Et j'ai tout de suite pensé à ce qu'il est dit dans Job. Dieu parle une fois. Et l'on n'y prend pas garde. Il parle une fois, deux fois, et l'on n'y prend pas garde. Dieu n'a pas honte de se répéter. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il nous avait dit cela hier soir, il nous le redit ce matin, en ajoutant que quand il vient avec sa rétribution. Et ça m'a beaucoup frappé. On connaît Dieu comme le Créateur. Quand on a la foi, par la foi, nous comprenons, dit l'Écriture, que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Je pense que vous reconnaissez tous Dieu, le Dieu unique révélé en Jésus-Christ, comme étant le Créateur. On connaît Dieu aussi dans la personne du Christ comme notre Rédempteur, celui qui a accompli pour nous à la croix une parfaite rédemption. Il a accompli tout notre salut. Mais bien souvent, on oublie que Dieu n'est pas seulement créateur et rédempteur, il est aussi rémunérateur. Ce n'est pas moi qui l'invente. Il est le rémunérateur de qui? De ceux qui le recherchent. Et vous avez cela dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, où nous voyons que Enoch, par exemple, celui qui a marché avec Dieu pendant 300 ans après sa conversion, il avait 65 ans quand il s'est converti, et puis il a marché avec Dieu pendant 300 ans, et il est dit de lui qu'il croyait à la rémunération. Et il est dit que Moïse, lui aussi, quand il a préféré de suivre Israël plutôt que d'être fils de la fille du Pharaon, c'est qu'il croyait à la rémunération. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et voyez-vous, quand nous lisons le livre de Jérémie, nous apprenons que Dieu va rétribuer les uns et les autres. Tôt ou tard. Pour l'instant, vous pouvez mettre quelquefois en doute la justice de Dieu. Vous dites, mais comment est-ce que Dieu permet cela? Comment est-ce que Dieu n'intervient pas, n'agit-il pas? Mais vous savez pourquoi? Dans ce temps-ci, il n'intervient pas comme vous le voudriez. C'est un temps de grâce. Alors, dans le temps de grâce, la justice de Dieu n'est pas pleinement manifestée. Mais un jour viendra où ce sera le temps de la justice. Et Jérémie en particulier nous parle de cette rétribution qui sera la part de Babylone. Babylone qui a détruit le temple, Babylone qui a emmené en captivité les enfants d'Israël, parce que, évidemment, ils avaient péché. Dieu leur avait parlé une fois, deux fois, ils n'ont pas écouté, et alors il leur est arrivé ce qui était arrivé au temps du déluge, au temps de Noé, il leur est arrivé comme ce qui est arrivé au temps de Lot, à Sodome et à Gomorre. Mais nous devons bien comprendre que la rétribution vient aussi et sur la chrétienté en particulier, qui ne suit plus du tout les paroles de Jésus. Nous avons mis de côté les paroles de Jésus. Ce n'est plus pour notre temps, nous devons vivre avec notre siècle maintenant, et nous ne retenons pas ferme ce que nous avions reçu. Eh bien, c'est l'exhortation que nous avons entendue hier. Il nous a accueillis en nous disant, je viens bientôt. Alors ça devait être une joie pour nous. À moins que, sur bien des points, nous ne sentions pas en règle. Mais c'est encore le temps de nous mettre en règle. C'est encore le temps de savoir nous humilier, parce que Dieu ne résiste qu'aux orgueilleux, mais il fait grâce aux autres. Et il est le réparateur des brèches. Vous pouvez avoir confiance que si vous allez à Dieu dans l'humiliation, le Seigneur vous pardonne et vous relève et peut vous donner encore un temps de bénédiction. Mais il reviendra. Voici, je viens bientôt et ma rétribution sera avec moi. C'est tout l'étude que nous allons faire dès ce matin. Et cette rétribution, eh bien, elle est en bien pour ceux qui auront suivi Jésus. Il y a des couronnes, et c'est ce que nous avions dit, que personne, fais attention, que personne ne prenne ta couronne. C'est pas qu'on peut perdre son salut. La couronne, c'est pas le salut. La couronne, c'est la récompense. Mais ce qu'on peut perdre, c'est notre récompense. Et il y aura des pertes Et alors, hier, mais je ne l'ai pas fait, j'avais annoncé que je vous parlerais de ce qui arriverait après l'enlèvement de l'Église, dans le ciel où nous serons introduits, avant les tribulations, et la, en particulier la grande tribulation, eh bien, j'avais dit que je parlerai, je méditerai sur ce qui arrivera dans le ciel. On ne va pas rester dans les nuages, on ne va pas rester dans les airs. Il nous introduit dans le ciel, et là, nous comparaissons tous devant le tribunal de Christ. Au fond, on pourrait dire, c'est les promotions. Là. C'est pas la condamnation. Mais enfin, chacun de nous sera examiné au sujet de ses œuvres, de ses pensées, de ses paroles et de ses œuvres. Là, vous pouvez méditer, hein, que nous avons eu depuis que nous nous sommes donnés au Seigneur. C'est pas rien d'avoir accepté le Seigneur. Mais si nous avons accepté le Seigneur, il doit devenir le maître de nos pensées, le maître de nos paroles, et aussi le maître de nos actions. Et nous serons examinés sur ces points, nous avons tous à rendre compte, comme il l'est dit à plusieurs reprises, au tribunal de Christ. Nous ne comparaissons pas pour être jugés quant à nos péchés. Il est mort pour nos péchés. On ne perd pas son salut. Mais ce qu'on peut perdre, c'est la récompense, c'est la couronne. Alors, vous me direz, mais moi, pourvu que je sois sauvé, juste sauvé. Pas aller en enfer, juste sauvé. Mais ce n'est pas cela. Si vous avez saisi, et si Dieu nous donne de saisir qu'il nous a préparé un si grand salut, nous désirons le servir et l'honorer. Mais nous croyons à la rétribution. Et nous pourrons en parler tout à l'heure. Dieu notre Père, nous te remercions parce que tu n'es pas seulement notre Créateur qui nous a donné l'existence, mais tu es notre Rédempteur, celui qui a voulu nous racheter de toutes nos fautes, mais pour que nous t'appartenions et pour que nous puissions te glorifier et te servir. Et nous savons que, à la fin de ce service, quel qu'il soit, eh bien, il y aura la récompense. Même tu nous dis qu'un verre d'eau froide ne perdra pas sa récompense. Rends-nous sensibles à cela. Ouvre nos cœurs pour cette journée. Prépare toi-même cette retraite. Fais qu'elle soit en bénédiction à chacune de nos âmes. Bien que toi, tu connais les besoins de chacun, alors nous comptons sur toi, sur ton amour, pour que chacun puisse recevoir, ne serait-ce qu'une parole, qui soit une parole de vie et d'éternité. En Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, nous allons maintenant... Ô Dieu, tu sais que de tout notre cœur, nous désirons que tu sois glorifié, que tu sois honoré, toi, que nous puissions oublier l'homme et ne plus être en présence que de Jésus que tu nous as donné et qui nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Ô Seigneur, notre Dieu, veuille bénir chaque lecteur de ta parole et que cette parole éclaire et illumine. Tu dis que tu résistes aux orgueilleux, mais que c'est grâce aux hommes et que tu donnes l'intelligence aux saints. Donne-nous d'être saints, d'avoir un cœur d'enfant et de croire cette parole pour la mettre en pratique. Que de nos cœurs, elles descendent jusque dans nos membres afin que nous marchions selon ta volonté. En Jésus. Amen. Alors, ceux qui étaient là lors de notre dernière retraite d'octobre se rendent compte que le thème de cette nouvelle rencontre est formulé de la même manière que
la retraite précédente. C'est-à-dire, c'est une question qui formule notre thème. Et à la retraite précédente, qui avait pour but de nous plonger dans la première épître aux Thessaloniciens, nous avions posé cette question, peut-on attendre dans l'aujourd'hui de notre vie la venue du Seigneur pour les siens? Car il est question que le Seigneur vienne d'abord pour prendre les siens auprès de lui. Mais est-ce cette venue du Seigneur, est-ce que ça peut se passer au cours de notre vie? Et nous voulions avoir une conviction par la parole. Et c'est pourquoi nous avons attendu à la fin de la retraite pour que vous puissiez cocher un oui ou un non dans les petites cases que nous avions préparées et qui n'avaient rien à faire avec le référendum, bien entendu. Mais si vous aviez une conviction après cette lecture, est-ce que vous pensez que le Seigneur peut revenir pendant votre vie? Est-ce que c'est une catastrophe s'il revient pendant votre vie? Non! En un instant, en un clin d'œil, sans anesthésie, nous serons changés. Jésus l'a dit, hein. Il reviendra. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, il reviendra. Mais on dit oui, mais il est parvenu depuis si longtemps, alors l'espérance, on la laisse de côté. Non. Nous voulons retrouver cette espérance vivante. Alors, nous n'attendons plus la mort, mais nous attendons Jésus. Le vivant. Celui qui a été mort et qui est vivant. Et qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont morts? Au moment de sa venue, pour les siens, il va ressusciter tous les morts en Christ. Tous ceux qui sont morts dans la foi, que ce soit dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient sauvés, c'est parce qu'ils attendaient le Messie, ils attendaient celui que les prophètes et que Dieu lui-même avait promis même aux couples échus. Que la semence, la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, alors qu'elle serait blessée au talon. Et c'est vrai qu'elle était blessée au talon. Il a été crucifié. Jésus a été atteint dans la partie la plus basse de son être, le talon, hein, qui représente son humanité. Il ne pouvait pas être frappé dans sa divinité, mais il a été frappé dans son humanité. Et c'est bien pour cela qu'il avait pris l'humanité. Mais il était sans péché. Et il est mort, donc, pour nos péchés. Et c'est par cette mort que nous avons été rachetés. Saint Pierre le dit très nettement. Vous n'avez pas été rachetés par de l'argent ou par de l'or, mais par le sang précieux du Christ. Voilà le prix de notre rachat. Oui, le salut, il est gratuit pour nous, mais il n'a pas été gratuit pour Jésus. Et il l'a payé au prix de sa vie. Vous êtes cher au cœur du Seigneur et vous êtes cher au cœur de Dieu qui vous a donné Jésus. Et alors, c'est à ce Père que vont toutes nos pensées et nos actions de grâce. Alors, je veux croire que, après avoir lu et médité cette première épître aux Thessaloniciens, vous avez été convaincu que le Seigneur peut revenir pendant votre vie. Et il n'y a pas de signe à ce sujet, au sujet de la venue du Seigneur pour ravir les siens, à un tel point que les premiers disciples pouvaient l'attendre dans leur existence, dans leur vie. Les signes sont seulement donnés pour son retour en gloire, pour sa venue en gloire. Et ce qui nous fait pressentir que nous sommes proches de cet événement extraordinaire qui va marquer dans l'histoire l'enlèvement des croyants, c'est qu'on voit de plus en plus des signes qui préparent le retour en gloire du Seigneur. De sorte que, oui, nous ne symbolisons pas ces promesses, nous croyons qu'elles s'accompliront littéralement. Parce que toutes les promesses qui étaient données pour le premier avènement du Christ, est-ce que ça a été symbolique? Non. Au bout de 400 ans, quand l'heure est venue, le Seigneur est apparu. Il est né à Bethléem. Il est né d'une vierge, comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe. tout a été accompli littéralement. Et si vous connaissez un peu les Écritures, eh bien vous savez que sa vie de souffrance, son rejet, tout a été annoncé d'une façon extrêmement précise. Si vous lisez Daniel et si vous lisez le prophète Ésaïe, eh bien vous êtes convaincu, le premier avènement du Seigneur s'est accompli littéralement. Alors le second avènement du Seigneur, il s'accomplira aussi littéralement. Mais dans ce second avènement, il faut distinguer deux actes, parce que sans ça vous êtes un peu perdu et vous voyez des contradictions. Quand il revient pour les siens, il n'est pas vu de tous. Mais alors vous direz, mais quand dans l'Apocalypse, il est dit qu'il sera vu de tous, hein? Oui, mais quand il revient pour le monde, il revient d'abord pour les siens, et ça c'est un secret de famille, si je peux dire ainsi. C'est la famille de Dieu qui disparaît, comme le monde sera content. Plus chrétien, hein? Mais c'est ce qu'on entend. C'est on veut mettre le christianisme de côté. Et ceux qui ont encore un petit peu de foi, ce sont des gêneurs. Parce que leur vie condamne celle des autres. Leur propre vie condamne. C'est pour ça que je vous disais que c'est au fond très bien si vous avez quelques difficultés. Parce que alors c'est la preuve de la justice de Dieu. C'est que vous voulez vivre justement. Puis maintenant, c'est le mensonge, c'est l'idolâtrie. On adore les idoles. Et je relisais ce matin un peu ces chapitres de Jérémie qui parlent de Babylone. Ils étaient des adorateurs. Ils aimaient leurs idoles. Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? C'est effrayant. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, j'adore. On dit, oh, mais c'est du langage. Non, c'est pas du langage. J'adore. On adore. Pourtant, vous avez tous été élevés à peu près, je pense, avec ce commandement, un seul Dieu s'adorera, c'est pas une doctrine nouvelle. Nous ne disons rien de nouveau, nous revenons à ces paroles. Un seul Dieu, tu l'adoreras. Donc je n'emploierai pas ce mot parce que j'aime beaucoup le fromage. Non, j'adore pas le fromage. Je mange. Mais c'est extraordinaire d'entendre ça. Alors vos enfants l'entendent et puis ils diront les mêmes choses. J'adore. Et Dieu là n'est pas adoré. N'est pas révélé. Alors, donc, il y a dans la première épître aux Thessaloniciens des vérités extraordinaires que le Seigneur n'avait pas pu enseigner lui-même. Il l'avait annoncé. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les supporter. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, alors il vous conduira dans toute la vérité, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. De sorte que les écrits des apôtres dans les épîtres, que ce soit les épîtres de Paul, il y en a 13 qui lui sont attribués, peut-être 14 si on prend l'épître aux Hébreux, et puis il y a les deux épîtres de Pierre, les trois épîtres de Jean, une épître de Jacques, et une épître de Jude. Eh bien, dans tous ces livres, nous avons l'enseignement du Seigneur. Il y a autant d'autorité dans ces passages-là que dans les évangiles, dans les paroles des évangiles. Nous croyons les paroles de l'apôtre Paul comme nous croyons aussi les paroles de Jésus. Car il dit qu'il a reçu cela du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est ce qu'il dit au sujet de la Sainte Seine. Il n'y était pas à la Sainte Seine de son institution, l'apôtre Paul. Il était encore seul de Tarse, n'est-ce pas? Mais ensuite, il a reçu du Seigneur, non pas des apôtres qui sont venus lui raconter, il a reçu du Seigneur cette révélation de ce qui s'était passé la nuit où il fut livré. Et c'est la même chose, le même témoignage et qui concorde. Alors, c'est merveilleux de pouvoir se dire, quand je lis l'Épître aux Romains, c'est le Seigneur qui me parle. Quand je lis les Épîtres aux Corinthiens, c'est lui aussi qui m'exhorte. Et c'est ainsi que la Bible est un livre vivant qui me touche dans toutes ses parties. Et dans cet Épître aux Thessaloniciens, que beaucoup de gens aiment, parce qu'il y a justement une merveilleuse révélation, la révélation de l'enlèvement de l'Église ou des croyants depuis le verset 13 du chapitre 4 jusqu'au verset 18, mais on peut dire que dans chacun de ces chapitres de la première aux Thessaloniciens, il est question de la venue du Seigneur. Alors, au chapitre 1er, sa venue se rapporte à la prédication de l'Évangile, le service de l'Évangile. Les Thessaloniciens s'étaient convertis pour servir le Dieu vivant est vrai, et attendre des cieux son Fils Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc la colère à venir, est-ce qu'elle vient? Oui, elle est là. Et on voit bien que ça s'amasse, hein, cette colère. La colère vient. Mais qu'est-ce que nous attendons? La colère? Non. Alors vous êtes défaits. Nous attendons Jésus qui nous délivre. Et vous savez, il tiendra sa promesse. Et c'est, je racontais à mes amis ici, ce matin, ma femme peut en témoigner. Je me disais, mais est-ce que tu pourras venir? J'avais une grippe et ça me faisait mal. Et mes yeux coulaient. J'ai dit au Seigneur, écoute, Seigneur, c'est pas pour moi que je fais ça. Si tu le veux, puisque mes membres sont à toi, délivre-moi. Et il l'a fait. J'avais mis ma montre pour me réveiller à 4h30 et je me suis réveillé à 4h. Sans montre. Ça vaut la peine. Le Seigneur s'occupe de nous. Et il nous répond. Et c'est ce que mon ami disait, il t'a répondu. Oui, c'est vrai, il nous répond. Et comme nous le disions, vous savez, il est dans le détail de nos vies, mais dépendons de lui. Est-ce que vous dites, oh, mais on ne veut pas déranger le Seigneur? Déranger. Il est venu sur la terre. Alors, faisons entrer le Seigneur avec foi. Gardez ce que vous avez. Si vous avez la foi, gardez cette foi. Malgré les difficultés, malgré les circonstances, au fond, la foi, elle se manifeste quand tout va mal. Hein. Et puis quand tout va bien, comment est-ce qu'elle devrait se manifester? Par la louange. Mais est-ce qu'on loue quand tout va bien? On oublie. Et il faut toujours qu'on ait une épreuve pour qu'on revienne. Alors, quand on vous parlait l'autre jour, il n'y a pas d'amélioration dans notre chair depuis la conversion, c'est vrai. Plus on avance spirituellement, plus on se voit noir. Plus noir qu'à la conversion. Puis on se juge dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Parce que nous devrons rendre compte. Je me souviens, j'étais dans un train une fois en Suisse, il y a bien des années, puis la parole m'a été donnée que j'aurais à répondre de toutes les paroles que j'aurais. C'est dans le chapitre 12 de Matthieu. Misère. Alors, comme on doit faire attention à ce qui sort de nos lèvres. Hein. Et puis alors, quant à nos pensées, eh bien oui, je ne peux pas empêcher que les mouches volent, mais je peux empêcher qu'elles se posent. Hein? Pour qu'elles demeurent. Et puis, les mouches mortes font sentir mauvais, qu'il est dit dans le chapitre. Même si on veut la suivre. Alors, débarrassons-nous de tout cela par la confession. Une vie de communion, c'est une vie de confession. Inévitable. On confesse au jour le jour. Parce qu'on est dans un monde où tout est fait pour vous faire pécher. Pour vous pousser au péché. On a dit quelquefois que c'était pas le premier regard qui est un péché, c'est le second. C'est pas une émission radio-télévisée, mais le second regard. Hein. On comprend. Vous direz pas que j'ai parlé contre le second regard. Hein. Mais pour nous, hein, on a un regard, et la convoitise est là. Le péché, il est en nous, jusqu'à notre mort, on l'aura. Mais quelle attitude est-ce qu'on doit avoir pour ce péché? Nous sommes morts. Porter, c'est ça la vie de la foi. Le Seigneur est mort, non seulement pour nos péchés, mais il nous a pris avec lui, donc sa mort. Alors, dans la foi, nous disons, Seigneur, tu l'as dit, je suis mort en toi. Alors, on se confesse dans la mort. Le péché n'a plus de pouvoir sur un mort. Un grand fumeur, ben mon grand-père, à 70 ans, il avait fumé toute sa vie. Il a arrêté d'un jour à l'autre. Il n'a pas trouvé une méthode. On a dit, le père Amédée, il va mourir, parce que quand on arrête comme ça, on meurt. Il avait tout jusqu'à 90 ans. C'est pour vous, ces souvenirs. On sait que c'est vrai. Le Seigneur nous permet de vérifier dans notre vie qu'il tient parole. Mais alors, croyons-le. Et sa femme, elle n'a pas vu sa conversion de son mari, de mon grand-père. Mais je l'entends encore me dire, quand j'étais sur ses genoux, un jour, grand-papa se convertira. Elle n'a pas vu, elle est mortelle. Mais il s'est converti le jour de l'enterrement, je l'ai dit. Ma femme me dira, je me répète, ça va mal. Ah, vous savez, quand on vit avec un docteur, c'est pas très drôle. C'est très bénéfique. Pas qu'on nous laisse rien passer. Et il faut savoir accepter la vérité. Alors, mes amis, revenons à notre sujet. Donc, premier chapitre, le retour du Seigneur. Deuxième chapitre, le retour du Seigneur. À la fin, il est parlé justement de ce retour. Et qu'est-ce que Paul disait au verset 19? Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, une couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Alors là, à l'avènement du Seigneur, il y aura les rétributions, et Paul pense que les Thessaloniciens qu'il a amenés du paganisme au Christ seront sa couronne de gloire. Donc, le retour du Seigneur nous amène à, il amène les rétributions. Il dit, vous serez ma couronne. Est-ce que nous travaillons pour le Seigneur? Maintenant, prenez le chapitre 3, verset 13. Où j'ai, depuis le verset 12. Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà qu'il est de nouveau question de l'avènement du Seigneur. Que quand le Seigneur viendra, il faut qu'il nous trouve dans la sainteté. Prenez le chapitre 4. L'apôtre leur donne cette révélation en vue de les consoler. Et il leur dit que quand le Seigneur viendra, donc il les prendra, il les ravira de devant la colère qui doit venir, et puis il ressuscitera les morts en Christ, donc ce sera les grandes retrouvailles sur les nuées du ciel, mais on ne reste pas là à flotter dans l'air, on s'en va auprès du Seigneur dans le ciel. Et on aurait pu parler peut-être un peu de tout ce qui va se passer dans le ciel, mais il faut être très prudent, parce que la Bible ne nous parle pas beaucoup de ce qui se passera dans le ciel. De sorte qu'il ne faut pas laisser notre imagination, mais ce qu'elle nous dit avec certitude, c'est que l'Église devra comparaître, enfin les croyants, que les croyants comparaîtront devant le tribunal du Christ. Je l'ai dit ce matin, c'est pas pour être jugé quant à nos âmes, on est sauvé par la foi, c'est pour être jugé quant à nos œuvres de chrétiens. Et vous avez ça dans le chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens, vous avez ça dans le chapitre 5 de la deuxième épître, hein. Vous avez ça dans Romains chapitre 14, on ne peut pas s'étendre sur ce qui s'est passé, mais c'est la même pensée. Nous devrons rendre compte devant le Seigneur, et le Seigneur rétribuera. Alors, dans le chapitre 5, c'est donc, dans le chapitre 4, c'est la consolation, consolez-vous donc l'un l'autre, par ces paroles, c'est la fin du chapitre, et puis dans le chapitre 5, alors il nous parle du jour du Seigneur, au verset 2, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors on est un peu effrayé, mais alors pour les siens, il vient comme un voleur. Non, c'est pour le monde qu'il vient comme un voleur, comprenez-vous? Mais pour le monde ne s'y attendra pas, mais pour nous, chrétiens, il ne vient pas comme un voleur. Pourquoi? Parce que nous l'attendons. Nos cœurs sont déjà à lui. Et la patience que nous devons montrer en l'attendant devrait rejoindre sa patience à lui qui attend son épouse. Car qu'est-ce que l'Église pour lui? Son m'épouse. Et il la désire auprès de lui pour la présenter à son père, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et alors, il récompensera ceux qui auront cru en lui en disant, ben maintenant, Christ est ma vie. Qu'est-ce qui est votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous entendez dans le monde? Qu'est-ce qui est vraiment votre vie? Qu'est-ce que Paul disait? Christ est ma vie. Vous direz, mais c'est une exception. Non. Ou bien nous avons la vie, ou bien nous ne l'avons pas. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie? C'est Christ. Est-ce que Christ a une place dans nos cœurs? Est-ce qu'il a la première place? Il est dit qu'en tout, il doit avoir la première place. Alors, il n'y a pas une chose que je vais faire sans penser au Christ. Est-ce que vraiment Christ est glorifié dans ce que je dis ou dans ce que je fais? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la volonté de Dieu. On dit toujours que c'est difficile de trouver la volonté de Dieu. Non. Mais on dit, mais c'est dans le détail. Mais oui, mais Dieu est difficile dans le détail. Alors, ayez les grands principes divins au sujet de la volonté de Dieu. Il veut être glorifié, je le répète. Il veut le salut du prochain. Alors, rien qui ne soit pas à la gloire de Dieu, rien qui puisse être un obstacle au salut du prochain, que je fais, doit penser à mon prochain. Et puis, il veut notre sanctification. Est-ce que ce que je fais ou ce que je veux, est-ce que ça me rapproche du Seigneur? Si ça me rapproche pas du Seigneur, ça m'en éloigne. Alors je dis non. Pas parce que c'est absolument mon vœu. Il y a beaucoup de choses dans le monde. Mais est-ce que ces choses, au lieu de me pousser à l'action de grâce, si ça me pousse au péché? Non. Alors, nous connaissons la volonté de Dieu. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors, vous voyez, le verset 23e de la dernière, de la première épître, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez que chaque chapitre de la première épître nous parle de la venue du Seigneur, sa venue, la parousie, comme on trouve le mot grec, en grec, la parousie du Seigneur. C'est sa venue, sa présence pour les siens. Puis il y a un autre mot concernant alors son retour en gloire pour le monde, qui s'appelle l'épiphanie. Quand il revient pour être vu du monde entier, et que les Juifs, le résidu d'Israël, regardera à celui qu'ils ont percé, alors c'est son épiphanie. Mais quand il revient pour le monde, c'est pas pour le salut, c'est pour le jugement. Et c'est une chose que vous devez bien distinguer dans l'Écriture, et que nous chercherons à voir avec vous. Alors, j'ai pas relu toute l'épître, hein, comme on me le demandait peut-être hier, mais on peut pas commencer la seconde épître sans parler de la première, en ignorant la première. Et je dirais même que si vous voulez savoir comment les Thessaloniciens ont entendu pour la première fois l'Évangile, il vous faut aller dans quel livre? Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17e, où vous voyez deux personnages qui ont été battus, qui ont été emprisonnés, mais qui sont sortis de la prison parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Ils ont vécu un tremblement de terre, mais un tremblement de terre qui les a délivrés. Ils venaient de la ville de Philippe, où ils avaient eu des conversions, mais les Juifs s'étaient liés avec des mauvais gens pour les persécuter. Alors, chapitre 17, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue, parce que à Philippe, ils étaient trop pauvres, il n'y avait pas de synagogue, mais ils se réunissaient au bord de la rivière, et Paul a prêché l'évangile là au bord de la rivière. Paul y entra, selon sa coutume, pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Et qu'est-ce que c'est les Écritures? C'était l'Ancien Testament. Donc, toute la base de Paul, c'était les Écritures, l'Ancien Testament, auquel Jésus avait rendu témoignage. Et il n'est resté là, il n'a pu prêcher dans cette synagogue que trois sabbats. expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Sur quoi se basait-il? Sur les déclarations de l'Ancien Testament. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, donc des anciens païens, craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Voilà ce que nous avons vu. Il y avait eu donc des résultats fantastiques en peu de temps, et Paul n'avait pas perdu son temps. Quand vous lisez comment il s'est présenté avec Silas, ils étaient des modèles. Alors, ils ont eu dans la vie du prédicateur un modèle, et ils sont devenus des modèles. Alors, nous lisons maintenant ce premier chapitre que vous allez méditer, et nous en parlerons tout à l'heure. Paul, Sylvain et Timothée, donc les mêmes qui ont écrit la première épître, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu. C'est beau ça, hein? Quand on pense à des âmes qui marchent selon le Seigneur, bien, nous sentons que nous devons rendre grâce à Dieu. Et non pas dire, oh, comme j'ai bien travaillé, hein, pour ces âmes. Non! Nous rendons grâce à Dieu parce que si une âme marche fidèlement, c'est par la grâce de Dieu. Alors nous rendons grâce à Dieu. Nous devons, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Est-ce qu'on verra ça pendant cette retraite? Ou bien il y a seulement des sympathies et des antipathies? Que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous, de vous, dans les églises de Dieu. On pouvait présenter l'église de Thessalonique comme un modèle. Alors nous nous glorifions dans les églises de Dieu, de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes les persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Et alors, ce fameux verset, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Un jour, la justice de Dieu se manifestera et ceux qui ont fait du mal ou qui vous auront fait du mal seront châtiés. Mais c'est pas à vous à vous défendre. Comprenez-vous? C'est Dieu qui justifie. Et on s'attend à lui. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. Alors ça, c'est son épiphanie. Quand il vient pour les siens, il vient à la rencontre des siens sur les nuées du ciel, et il enlève auprès de lui. Mais cela, ça se passe d'une façon cachée. C'est ce qui est appelé l'étoile du matin. Qui est-ce qui voit l'étoile du matin? Ceux qui veillent. Ceux qui sont debout. Ceux qui veillent. Parce que l'étoile du matin, elle est levée avant le soleil. Mais quand le Seigneur revient, il est l'étoile du matin pour ceux qui croient qu'il enlèvera avant, et puis ensuite il vient comme le soleil de justice dans Malachie. C'est merveilleux de voir cela, la précision. Il vient d'abord comme l'étoile du matin, ceux qui veillent le voient et s'en vont vers lui pour les promotions, comme nous le disions. Puis alors, il revient avec les siens et chacun à sa tâche parce qu'on vient pour régner avec lui. Et c'est pourquoi votre vie a une valeur incroyable. Ne faites pas rien de votre vie. C'est maintenant que le Seigneur vous permet de manifester si il pourra vous donner une tâche dans l'éternité avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui, mais en attendant, comme lui a été crucifié, nous sommes crucifiés. C'est juste que nous souffrions, mais nous savons qu'il y a une rétribution. quand le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, vous voyez, quand il revient en gloire, c'est pour punir. Parce qu'il y a une limite à l'iniquité, et c'est très frappant. Je reviens avec toute la Bible. Vous prenez avec Abraham, à l'appel d'Abraham, Abraham reçoit cet ordre du Seigneur, tu ne pourras pas prendre possession du pays, parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas parvenue à son comble. Et il laisse encore 400 ans aux Amoréens pour se convertir, pour se repentir. Avec l'histoire de Noé, il leur laisse 120 ans. Hein. Puis après, il y a une limite. Et c'est toujours comme cela. Et quand on nous dit que c'est pour l'Église, n'est-ce pas, pour l'Église maintenant, pour réveiller le monde, elle doit faire des miracles. Non, elle doit être sainte. Juste et pur, désintéressé, vivant de foi, le Seigneur ne donnera pas sa puissance. Quand on le renie dans la pratique, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle. On ne croit plus à ça. Hein. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là, et ça c'est le jour du Seigneur, pour être glorifié dans ses saints. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Il sera vu dans tous ses saints en perfection. Il sera glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, eh bien, feront l'admiration des autres. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre et de l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifié en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est cela que vous allez méditer. Pendant une demi-heure, vous allez reprendre ce passage pour vous-même en vous disant, mais qu'est-ce que le Seigneur a à me dire? Alors, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas tellement l'habitude de méditer, j'ai proposé ces questions. Que manquait-il donc aux jeunes croyants de Thessalonique alors que Paul souligne leur progrès dans la foi, l'amour et la patience? C'est dans le chapitre premier, vous n'avez pas à sortir là. De citer les deux caractères principaux d'une église, d'une véritable église chrétienne, vous le trouverez facilement. Trois, à quel moment la justice de Dieu se manifestera-t-elle pleinement devant le monde, pour ceux qui auront cru, et d'autre part, pour ceux qui auront ignoré volontairement l'évangile et qui lui auront désobéi. Parce que c'est clair que si la justice de Dieu se manifestait maintenant, qu'est-ce qui arriverait? Nous mourrions tous. Si Dieu ne pensait qu'à lui-même, et qu'il retirait son esprit et son souffle, toute chair expirerait ensemble. Hein, c'est dangereux. Alors, c'est le temps de la grâce. Alors, s'il semble que Dieu n'est pas juste, c'est parce qu'il voudrait donner du temps à des gens pour se convertir, pour se détourner de leur voie. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vous laisse avec lui. Alors, nous avons peu de temps. Vous avez pu faire un rapport? Alors, on m'a demandé de dire encore quelques mots sur les réponses, et puis après, on entendra vos rapports, et si on n'a pas fini avant à midi, eh bien, nous prendrons le premier quart d'heure cet après-midi pour vos rapports. Hein? Vous avez donc refait cette lecture, et je pense que plus vous lisez, plus vous comprenez. Je ne sais pas si vous avez pu répondre à la question 1. Que manquait-il donc aux jeunes croyants de Thessalonique, alors que Paul souligne leur progrès dans la foi, l'amour et la patience? Mais de quoi ne parle-t-il pas? Si vous lisez le chapitre premier, de la première épître,
vous voyez que Paul leur parle de leur œuvre de foi, de leur travail d'amour et de leur, littéralement, patience de quoi ? D'espérance. Et c'est ce qui nous frappe quand nous lisons la deuxième épître, il manque l'espérance. Il manque l'espérance. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui peut faire diminuer quelquefois l'espérance ?
C'est la déception, parce que il s'attendait tellement à ce que le Seigneur vienne qu'il n'était pas venu. Alors qu'il n'avait plus la même espérance comme vigueur pour traverser. Ils avaient de la patience, ça c'est vrai, mais on peut être patient et puis plus ou moins triste quand même. C'était une patience d'espérance, une patience rayonnante qu'ils avaient dans les premiers jours de leur foi. Et dans la seconde lettre, eh bien, Paul a discerné qu'il n'y avait plus, il a eu des rapports de Timothée, qu'il n'y avait plus la même espérance, parce que l'épreuve était grande. Alors, que manquait-il donc aux jeunes croyants de Thessalonique, alors que Paul souligne leur progrès dans la foi, l'amour et même la passion? Mais il ne parle pas de l'espérance. Ce qui est noté dans la première épître, vous voyez, il faut toujours lire les deux épîtres. Alors je dis simplement, si vous pouviez trouver d'autres choses, avoir d'autres pensées, mais qu'est-ce que Paul leur a prêché? La foi, l'espérance et l'amour. C'est les trois vertus chrétiennes. Et vous retrouvez toujours ça, la foi, l'espérance et l'amour, dans toutes les lettres de Paul. Vous trouvez cela. Il parle toujours de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et comme il avait peu de temps, là, il est resté que trois sabbats pour les enseigner. Il est peut-être resté un petit peu plus longtemps, mais il ne pouvait plus enseigner dans la synagogue. Eh bien, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'être encouragé. Et comme nous le verrons cet après-midi, il leur avait expliqué le retour du Seigneur, mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas bien compris. Et alors, il doit leur écrire pour remettre les choses au point. Et ça, c'est cet après-midi que nous verrons ça. Maintenant, il est dit, la deuxième question, citer les deux caractères principaux d'une véritable église chrétienne. Bien, il n'y a pas besoin non plus de chercher midi à 14h, hein. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père. Alors, cela veut dire que une véritable église, elle est composée de quoi? D'enfants de Dieu, qui connaissent leur Père. C'est pas d'être membre de l'église qui fait qu'on est vraiment de l'église, comprenez-vous? C'est d'avoir la relation avec le Père céleste que Jésus est venu nous apprendre à connaître, parce qu'il n'y a pas de réelle et complète connaissance de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Alors, ce qui caractérise une vraie église, c'est que ceux qui la composent aiment à parler de leur Père. Ils ont un Père. Et ce Père, ben, ils font pas une longue figure. Il est bon. Un seul est bon. Ils connaissent la bonté du Père. Et ils aiment à parler à ceux qu'ils rencontrent de cette bonté paternelle. C'est un Père céleste, un Père qu'on ne peut pas perdre. C'est un Père miséricordieux qui vient au-devant de notre misère, qui ne nous écrase pas quand nous nous sentons misérables. Mais justement, il est là pour les misérables. Quand nous nous sentons misérables, il y a toute la miséricorde de Dieu qui s'avance. C'est tellement beau ça. Un Père de miséricorde. Il est appelé, je répète que des choses dites, il est appelé le Père des miséricordes. 2 Corinthiens, chapitre 1er, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Donc une véritable église, elle est composée d'enfants de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Dans le chapitre 1er de Jean, il est dit que le Seigneur, qui est la parole, est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit ou le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on est créature de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Et alors, on doit pouvoir parler de cette nouvelle naissance. Il y a eu un autre fois dans notre vie, il y a un maintenant. Et il y a un changement, il y a la croix qui a changé notre existence. Il y a un autre fois et il y a un maintenant. Alors, une véritable église, elle est composée d'enfants de Dieu, des enfants de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que des gens du monde ne peuvent pas venir. Mais ils ne font pas partie de l'église. C'est pour ça, vous ne devez pas être obnubilé par le nombre. Ce qui compte, c'est la relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'elle est? Dans les membres de votre église. C'est une relation d'enfant avec le Père. Et alors, de cette relation-là, d'enfant avec le Père, un Père qui nous aime, on se sait aimé du Père, et cela nous suffit, parce que comment nous aime-t-il ce Père? Jésus nous l'a dit. Comme il a été aimé lui-même. Le Père lui-même vous aime. C'est formidable. Si vous avez cette foi, si cette foi demeure, alors vous êtes en relation avec le Père. Quand on pense à cela, nous sommes en paix. Alors, une véritable église est composée d'enfants de Dieu qui ont une relation avec le Père Céleste. Alors, que sont-ils les uns pour les autres, les enfants d'un même Père? Ce sont des frères, et pourquoi on a tant de peine à s'appeler frères? Ou à reconnaître que c'est notre frère. Le Seigneur vous a aimé, il a payé pour vous le même prix qu'il a payé pour moi. Alors donc, nous sommes chers au cœur du Seigneur, et ceux qui sont chers au cœur du Seigneur devraient nous être chers. C'est cette relation avec Dieu qui fait notre relation les uns avec les autres. Et je trouve que cette jeune église de Thessalonique, elle était merveilleuse, comme exemple. Ils avaient compris cela. Ils étaient en Dieu le Père. C'est ce que Paul leur dit dans la première épître aux Thessaloniciens. Et puis, en Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, non seulement maintenant nous connaissons le Père Jésus-Christ, mais il est notre Seigneur. L'Église, la vraie Église, c'est l'Église de qui? D'une doctrine? Non, je ne veux pas entrer là-dedans, n'est-ce pas? Mais on aime à mettre une doctrine en avant. Alors on se réunit au nom d'une doctrine. Les uns se réunissent au nom de telle doctrine, les autres au nom d'une autre doctrine. Mais c'est au nom de Jésus. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Vous pouvez avoir bénéficié du ministère de Calvin, réformateur, de Luther, tout ce que vous voulez, mais c'est pas au nom de Luther, de Calvin, d'un autre, que nous nous réunissons, c'est au nom du Seigneur Jésus. Et là, il faut le garder au moins dans son cœur, même si il y a d'autres noms. On supporte certaines choses. Mais il faut revenir à la parole. Et alors, voilà ce qui doit rester pour vous, c'est le caractère de la vraie Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit lui-même qu'il bâtirait son Église. Sur quelle confession? Sur la confession de Pierre. Pierre a confessé le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand Jésus leur a dit, qu'est-ce qu'ils disent les hommes que je suis? Les apôtres étaient allés faire de l'évangélisation, et puis ils sont revenus, tout encouragés, parce que Dieu leur avait donné de la puissance, hein, et puis on aime manier de la puissance. Hein. Et c'est dangereux, parce que quand on n'est pas bien reçu, comme Jean et Jacques, ils auraient fait descendre tout de suite le feu du ciel. Hein. Ça, c'est dangereux. Hein. Et on est comme ça. On serait tout de suite capable de faire descendre le feu du ciel sur ceux qui sont opposés. C'est bien nous. Donc c'est toujours la même église. Alors, le Seigneur dit à Pierre, tu sais Pierre, t'as pas trouvé ça tout seul. Moi je trouve ça c'est très beau. Ce n'est pas la chair et le sang dont c'est dit là, que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est par une révélation du Père Céleste qu'il a dit une vérité. Et quand quelqu'un dit une vérité, c'est pas de lui-même, c'est pas sorti de son propre cœur, ça vient du Père, c'est par inspiration. Alors, c'est donc l'église du Seigneur. Et Jésus dit, tu es Pierre, et sur ce roc, cette confession qu'il vient de faire, je bâtirai mon église. Et c'est très frappant quand on étudie aussi la doctrine catholique, dont les grands théologiens disent, nous savons bien avant l'hérésie protestante, là je vous cite un jésuite, nous savons bien avant l'hérésie protestante, que la pierre angulaire n'est pas l'apôtre, mais le Christ. Parce que, si vous demandez à Pierre, comment est-ce que tu as compris? Dans son épître, il dit, Jésus est la pierre. Donc, on a, alors, il y a une discussion. Mais pour le peuple, on a laissé ça, c'est l'église de Pierre. Non. C'est l'église où Pierre est une pierre, et où nous sommes des pierres dans l'édifice. Alors, vous voyez, il y a déjà bien des choses qui se dissipent, et puis on peut s'aimer, et on peut se saluer. Et si on n'a pas la grippe, on peut s'embrasser, même. C'est pas parce que je vous aime pas. Alors, c'est quand même merveilleux, la parole. Alors, ça nous libère, et puis ça nous permet de vivre avec d'autres. Et aussi, alors, il y a le support, parce que quand on voit comme le Seigneur nous a supportés, et comment il nous a relevés, que de fois il nous a relevés, que de faux pas nous avons pu faire, alors que nous avions pourtant les preuves du Seigneur. Le Christ a souffert pour vous, vous l'étant un modèle, afin que vous suiviez quelle trace? Ses traces. Alors, recherchons toujours ses traces. Et nous serons dans le bon chemin. Et dans la vérité. Donc, l'Église, elle est en Dieu, le Père est dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître. Et c'est lui qui est l'autorité. Or, ça me fait des fois un peu mal au ventre de voir combien souvent des conducteurs spirituels veulent établir eux-mêmes leur autorité sur les fidèles. Ils parlent toujours de l'autorité et puis qu'il faut qu'on soit soumis. Bien sûr qu'il y a une soumission les uns aux autres. Mais on n'est pas préoccupé de ça si on est soumis au Seigneur Jésus. Alors nous ne sommes pas des dominateurs quand on sert le Seigneur. Nous sommes des serviteurs. Et on est au pied des âmes pour essayer de les faire croître et grandir. On ne les domine pas et on ne les manipule pas. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Alors reprenons tout cela et vous serez tellement plus heureux. Et vous rendrez les autres heureux. Maintenant, la troisième question. À quel moment la justice de Dieu se manifestera-t-elle pleinement devant le monde, pour ceux qui auront cru, et d'autre part, pour ceux qui auront ignoré volontairement l'Évangile, ou qui lui auront désobéi? Eh bien, c'est au jour du Seigneur. Quand le Seigneur apparaîtra pour le monde, à l'apparition du Seigneur, c'est l'apocalypse, hein, le mot apparition, le mot apocalypse veut dire dévoilement. L'enlèvement de l'Église n'est pas un dévoilement. C'est quelque chose qui se fait en secret. Il vient pour les siens, dans la nuit. Mais on veille, et alors on est prêt pour sa venue. Et on n'a pas peur, parce qu'on aime le Seigneur, qui nous a tellement aimés, et qui nous a tout pardonné, et qui nous pardonne tout si nous avons confessé nos fautes. Alors, ne soyez pas comme ceux qui ils attendent la mort. Et la mort, c'est pas une espérance. C'est pas une espérance. La mort ne fait pas partie de notre espérance. La mort, c'est les conséquences du péché. Mais donc, ce qui est une espérance, c'est vraiment le retour du Seigneur, qui a promis de prendre les siens avant la colère. Comme Noé est entré dans l'arche avant le déluge. C'est une grâce, parce qu'on est au temps de la grâce. Mais il y aura un jugement, parce que Dieu est saint, Dieu est juste, et il va manifester sa justice, et il aura manifesté sa justice en enlevant ceux qui l'ont aimé et qui ont cru, il les délivre de la colère, et puis quand il revient, eh bien, c'est pour condamner les méchants. Et nous allons voir qui est le méchant en particulier et ceux qui le suivront. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, eh bien, des croyants, des vrais croyants, les Églises aimeraient sont sur la terre, hein, avec toutes leurs étiquettes. Vous n'apporterez pas votre étiquette au ciel. J'espère. C'est ce que mon père disait même encore avant de mourir. Il n'apporte pas son étiquette. Et ce qu'il attendait, ce qui était sa joie, c'était de penser que peut-être il serait de cette génération qui ne verrait pas la mort. Parce qu'il y a une génération qui ne verra pas la mort. Alors tant que vous vivez, vous pouvez être de cette génération-là. Nous n'attendons pas la mort, nous attendons Jésus. Mais la vérité du retour de Christ, je n'en connais pas d'autre qui puisse autant sanctifier notre vie, autant nous exhorter à travailler pendant qu'il en est temps. Et quand je montais justement par ce chemin-là, j'entendais cette parole, quand Christ qui est notre vie. Et je me suis dit, j'ai dit, Paul n'est pas une exception, hein, quand il dit Christ est ma vie, il était au soir de sa carrière, il dit Christ est ma vie et la mort maintenant. Bien sûr, évidemment, être auprès du Christ, c'est déjà de beaucoup meilleur. Mais c'est pas encore la gloire. La gloire, on l'a à la résurrection. Mais les morts en Christ ressuscitent premièrement, puis nous, les vivants, nous sommes changés. Et il est dit, alors, quand Christ qui est notre vie, Colossiens chapitre 3, n'est-ce pas, nous serons manifestés avec lui en gloire. Hein. Car vous êtes mort et votre vie est cachée dans le Christ en Dieu, chapitre 3 des Colossiens, quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, hein, quand il sera dévoilé au monde, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire. Mais vouloir se manifester maintenant, ben qu'est-ce qu'on montre? Une drôle de chair. Parce que chacun reste charnel. Mais on veut toujours se glorifier de ce qu'on a fait. C'est pas le moment. Maintenant, c'est de nous humilier de toutes nos infidélités. Et alors, le Seigneur peut agir. Mais alors, faut savoir attendre. Alors, vous aussi, quand lui sera manifesté, mais pour l'instant, on ne le voit pas, il n'est pas manifesté au monde. Qu'est-ce qu'il croit vraiment en lui? Et puis, ce qui m'a pris, c'est qu'on a fait même, quelquefois, de l'évangélisation, comme une espèce de propagande, comme le monde. Hein. Le monde réussit avec ça, ben nous allons faire les mêmes choses. Et on emploie les méthodes du monde. On s'inspire de la télévision, tout ce qu'on voit, etc. Puis, ces applaudissements n'ont plus fini, on entend ça dans toutes nos églises maintenant. Applaudir quoi? Un prédicateur? Vous savez, quand on a prêché, on sent plutôt le besoin d'aller s'humilier dans sa chambre. Parce qu'on est plus, je leur ai dit, que je devais leur dire, c'est ce que Paul dit, je ne voudrais rien vous avoir caché des choses qui pouvaient vous être utiles. Est-ce que je me suis mis assez à leur porter, bien, et ça a passé au-dessus de leur tête, de sorte que quand on demande, alors c'était bien ce que le prédicateur a dit, ah oh, oui, c'était formidable, ah oui, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'était tellement profond que je me souviens plus. Hein, vous entendez ces trucs-là? Ça a passé au-dessus de vos têtes, alors ça sert à quoi? Voyez-vous, il nous faut devenir des réalistes. Hein. Mais un jour, donc, tout ça sera manifesté et nous serons manifestés avec lui. Quand lui sera manifesté, nous serons manifestés avec lui en gloire. Et c'est au verset 7 que vous avez ça dans votre premier chapitre, on y reviendra cet après-midi. Quand le Seigneur revient en gloire, quand il sort dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, c'est pour juger ceux qui n'ont pas cru en lui, et pour délivrer ceux qui, du peuple juif, qui doit passer par la grande tribulation, et vous savez, bien des juifs le savent, qui doit passer par la grande tribulation, eh bien, ils se tourneront par ces épreuves, par ce temps de la colère de Dieu, eh bien, ils se tourneront vers le Seigneur, et ils crieront à lui. Ils regarderont à celui qu'ils ont, et ils se lamenteront chaque famille à part. Il y aura donc un grand réveil pour le peuple juif. Et le Saint-Esprit leur sera donné. De sorte que vous savez, le Saint-Esprit, il est contristé, attristé dans nos églises. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas attendre beaucoup. Mais, un jour viendra où toutes les promesses s'accompliront pour ce régime du juif qui aura passé par la tribulation, qui aura beaucoup mourront, mais d'autres subiront le martyr, mais seront ressuscités au règne du Seigneur quand il viendra pour établir son règne. Mais tout cela va prendre place. Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Mais à nous, qui lisons la parole, nous devrions chercher à comprendre. Je me disais tout à l'heure, quand je pense à ceux qui font des mots croisés, hein, on en voit beaucoup en voyageant, hein, ils sont dans le train, ils font leurs mots croisés. Hein. Il y en a qui viennent fort. Mais il y a des difficultés dans les mots croisés. Ils n'ont pas toujours le dictionnaire avec eux. Eh bien, ils arrivent avec leurs mots croisés. Mais pour lire la Bible, pour comprendre tout ce que la Bible dit, oh, il semble qu'il y a des contradictions, alors on parle. Il n'y a pas de contradiction. C'est nous qui avons une vie limitée et bornée. Eh bien, le temps de la justice de Dieu vient. Ne pensez pas que Dieu est injuste. Il y a des choses qui se passent qui vous apparaissent tout à fait injustes. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne punit pas maintenant? C'est parce qu'il fait grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et si nous n'avions pas expérimenté cette grâce, nous ne serions plus. Car je répète, s'il ne pensait qu'à lui-même et qu'il retirait son esprit, son souffle, toute chair expirait ensemble. Voyons-le. Mais c'est le temps de la grâce. Mais c'est pas parce qu'il fait grâce qu'on peut dire, oh ben, Dieu est bon, c'est le bon Dieu. Je déteste cette expression. Dieu est bon, mais il n'est pas le bon Dieu. Il est un Dieu bon. Mais il est aussi un Dieu saint et juste. Et la justice, il la rendra, n'est-ce pas? Et vous voyez ce qu'il est dit. Si du moins c'est une chose juste devant Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui font subir la tribulation, et il y en a qui font subir la tribulation à d'autres, et que de vous donner à vous qui subissez la tribulation le repos avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus du ciel avec les anges de sa puissance en flamme de feu, en exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Et alors, de ces juifs qui, après l'enlèvement des croyants, se convertiront au Seigneur parce qu'ils n'ont pas eu encore cette révélation, mais ceux qui ont connu l'évangile et qui ne ont pas voulu le croire, qui n'ont pas eu, il n'est pas dit la connaissance de la vérité, mais l'amour de la vérité pour être sauvés, ceux qui n'ont pas voulu du Seigneur, eh bien, une énergie, une puissance d'erreur viendra sur eux. Et vous savez, elle vient, hein, cette puissance d'erreur. On le voit de plus en plus, les gens croient n'importe quoi. Il y a la puissance de mensonge, une puissance d'erreur, une puissance de mensonge viendra sur eux et ils croiront au mensonge. Et ce que nous allons voir, c'est que comme jugement de Dieu, Dieu va permettre qu'un homme puisse faire descendre le feu du ciel en disant qu'il est Dieu. Et vous savez qu'Élie a fait cela, hein, pour montrer quel était le vrai Dieu. Eh bien, il y aura une séduction terrible, et ça c'est un jugement de Dieu. Dieu permettra qu'il se signe là, mais c'est un signe qui montrera bien que la puissance d'erreur est sur eux. C'est un jugement de Dieu. Comme quand Dieu abandonne, c'est un jugement. Alors, je m'arrête là pour l'instant, parce que je ne voudrais pas que vous soyez frustrés. Dans la version second, il est dit « pour ce qui concerne », mais ce n'est pas littéral. Je vous expliquerai ça plus tard. Mais, gardons cette version. « Pour ce qui concerne », l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Vous voyez qu'il faut du bon sens, hein. Il y a le Saint-Esprit, mais il y a aussi
le bon sens. Et la parole parle souvent du bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors il nous faudra bien comprendre ce qu'est le jour du Seigneur. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, donc il y a plusieurs manières de nous séduire, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alors vous pouvez souligner apostasie, parce que nous voulons savoir vraiment ce que c'est que l'apostasie. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Donc, vous voyez, pendant ce peu de temps qu'il avait passé à Thessalonique, Paul les avait enseignés sur cette vérité capitale qui est le retour du Seigneur. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Déjà du temps des apôtres, il y avait ce mystère de l'iniquité qui arrive à son apogée maintenant. Il faut seulement que celui qui le retient encore et il disparaît. Et alors, paraîtra qui? L'impie. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Est-ce que nous qui allons le détruire? Et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par quelle puissance? Par la puissance de Satan. Et vous la voyez drôlement en marche, cette puissance. Hein? Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il y en a qui sont tout à fait ébranlés parce qu'on vous dit que dans certaines villes du Canada, pour ne pas la nommer, Toronto par exemple, eh bien il y a la puissance miraculeuse, des prodiges extraordinaires. Et comme vous le savez, on tombe en arrière. Il faut des gens pour vous tenir, des matelas pour que vous ne cassiez pas tout. Eh bien, on demandait des catcheurs évangéliques. C'est une nouvelle vocation, catcheur évangélique, passer à Toronto pour aider les gens. Quand vous lisez la Bible, et que le Saint-Esprit nous couvre, comment est-ce qu'il nous couvre? Sur notre face, pas en arrière. C'est simple comme tout, ne perdez pas votre bon sens. Mais on dit, oh, mais cette personne a été transformée par Toronto. On peut transformer pour n'importe quoi. Alors, faites attention. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Voyez-vous, c'est le temps de nous réveiller, de nous ressaisir et nous demander, mais comment est-ce que nous avons suivi, Seigneur? Est-ce que nous sommes restés collés à sa parole pour agir dans toutes nos voies? Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance également. Vous voyez, d'où vient-elle cette puissance? De Dieu, mais comme un jugement. Ah, c'est une chose terrible quand Dieu emploie ce jugement. Pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité à la vérité. Et la vérité, elle est en qui? Elle est en Jésus. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors la justice de Dieu se manifeste. Eh bien, mes amis, je vous laisse avec le Seigneur, et dans cette solitude, vous allez relire ces passages, les laisser pénétrer vos cœurs, et ensuite, au bout d'une demi-heure, vous retrouvez votre groupe, vous partagez, et nous nous retrouvons tous ici.